Je fais pour la première fois connaissance avec ma grand-mère à l'âge de 12 ans, en 1972. Ton aînesse, m'explique-t-elle, te donne un devoir d'exemplarité envers ceux qui viennent après toi. Je vais m'occuper de ton éducation et faire de toi un être bon et intègre. Pendant des années, son enseignement consistera à me rappeler que je suis issu d'une société de partage et de solidarité. Tu ne dois jamais l'oublier. D'où la nécessité, selon elle, de savoir cuisiner. Quoi de mieux que la cuisine pour faire communauté et rassembler les gens autour de soi ? Celui qui ne sait pas cuisiner est un être au cœur vide. Il n'a rien à offrir aux autres. Mais la cuisine, c'est pour les femmes, grand-mère. Tais-toi, imbécile, me rudoie-t-elle. Ne répète pas bêtement ce que disent les hommes. Aimerais-tu un jour finir comme un vulgaire égoïste, un radin, mangeant tout seul et replié sur toi-même ? J'apprends, avec une rigueur méthodique, à émincer les oignons, à écraser l'ail, à rissoler les viandes et les légumes. Je prends un immense plaisir à faire la popote. Chaque soir, avant de m'endormir, je pense au repas du lendemain. Dans ma tête, je concocte des plats, je rêve de goût et de fumée. Mes amis se moquent de moi, me traitent de femmelette. Ils ne savent pas ce qu'ils ratent, les bougres. À la fin, la sauce gombo ou encore celle du mouloukier ou du karandji n'ont plus aucun secret pour moi. À tel point qu'un soir, je me propose de prendre en charge la préparation du dîner. Ma grand-mère s'installe dans un coin de la cour, l'œil aux aguets, n'hésite pas à me recadrer à chaque fois qu'il m'arrive de me tromper dans mes dosages. Je lui prépare une sauce charmoute, de la viande séchée, avec du beurre, accompagnée d'un couscous de millet. « Bravo !» s'exclame-t-elle après l'avoir goûté. « C'est délicieux, Sami Djidou. Petit père, tel est le surnom qu'elle m'a donné. Elle refuse de m'appeler par mon prénom, Haroun, qui est aussi celui de son ex-mari. Je la regarde manger avec délectation, et son plaisir manifeste remplit mon cœur de joie. Cuisiner, c'est procurer de l'émotion aux autres. C'est un acte d'amour, tu sais, me confie-t-elle, entre deux bouchées. On ne cuisine que pour ceux qu'on aime. » Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Valentin Dedon et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'Albertine, l'émission qui se souvient de nos grands-mères. De lundi par mois à 13h sur Radio G en semaine impair, mais aussi quand vous le désirez sur radio-g.fr, on se souvient de nos grands-mères avec une ou un invité. C'est l'histoire d'une femme libre, cherchant à rester libre, luttant pour cela. Une femme bélier, comme on dit là-bas. Kaltouma, son épopée féministe dans le Tchad du milieu du XXe siècle, racontée par son petit-fils, le réalisateur et écrivain Mahamat Saleh Haroun, dans ce livre dont je viens de lire un extrait, « Ma grand-mère était un homme », paru chez Stock en 2024. Comme certains cuisinent pour ceux qu'ils aiment, elle fabrique des bouquets de fleurs et propose des ateliers créatifs. Je suis heureux d'accueillir dans le studio de Radio G, Chloé Viau, fondatrice de la caravane botanique et de la ferme botanique à Bécon-les-Granites. Bienvenue Chloé et merci d'avoir accepté l'invitation d'Albertine.
Bonjour, merci beaucoup Valentin.
Chloé, première question rituelle de cette émission, c'était quoi le prénom de tes grands-mères ?
Alors il y avait Jacqueline et il y avait Marie-Louise.
Jacqueline et Marie-Louise, et toi comment tu les appelais ? Souvent on appelle nos grands-mères plutôt par un surnom.
Moi, c'était, j'avais pas de surnom particulier. C'était mamie. On était, plutôt classique.
C'était mamie les deux.
Oui, c'était mamie. À la différence des prénoms de mes enfants, où là, mes enfants appellent leur mamie avec un surnom. En tout cas, non. Pour moi, j'ai pas de. C'était vraiment mamie.
Oui, la génération d'aujourd'hui, il y a souvent un choix singulier. Un choix propre.
Oui, quelque chose qui va les différencier. Mais non, moi, c'était plutôt traditionnel, tout simplement mamie.
Alors, ces deux mamies, Marie-Louise et Jacqueline, est-ce que tu peux nous les situer dans la famille, le côté paternel, le côté maternel ?
Alors, Jacqueline était ma grand-mère paternelle et Marie-Louise était ma grand-mère maternelle.
Alors, on peut commencer par Jacqueline, ta grand-mère paternelle, cette mamie. Quel souvenir tu en as ? Si tu devais nous la présenter, nous la dessiner, nous la raconter un petit peu, par quoi tu commencerais ?
C'était une mamie que je voyais un peu moins souvent. Mais par contre, elle cherchait toujours à me faire plaisir. Et chez nous, comme tu as pu le préciser en introduction, ça passait par la cuisine et je me souviens notamment de son coquelet frites qu'elle me cuisinait à chaque fois que je venais la voir.
Alors, on veut en savoir plus sur ce plat. Alors, raconte-nous un petit peu les odeurs, les saveurs, les souvenirs que tu en as. C'était à chaque fois que tu venais, tu avais ce plat.
Alors oui, c'était. Alors il fallait aller. Donc on allait chercher de quoi cuisiner. Donc c'était l'objectif. On allait notre petite balade matinale et puis ensuite elle se mettait voilà à faire ses frites. Alors en plus elle habitait dans un appartement, donc c'était toute une expédition pour faire des frites en appartement. Elle n'avait pas de friteuse, donc elle cuisinait tout simplement. Elle mettait les pommes de terre à cuire dans sa casserole avec l'huile. Et alors après, il y avait une odeur épouvantable. Mais par contre, qu'est-ce qu'on se régalait ?
C'était les frites à la... Elle cuisait les pommes de terre à la casserole et après les frites à la poêle dans l'huile, c'est ça ?
Elle cuisait vraiment. Alors, il y avait l'odeur de l'huile. Alors vraiment, ouais. Ça sentait dans tout l'appartement. Mais oui, c'était des très bons souvenirs.
Mais il fallait faire plaisir avec des frites quoi, pour les enfants.
Des vrais frites.
Ouais. Et donc avec le coquelet, c'est ça que tu disais ?
Le coquelet. Ben oui, parce qu'on n'était que deux. Donc acheter un poulet, c'était... Après, alors, elle devait manger du poulet pendant toute la semaine. Donc elle préférait le coquelet. Et au moins, voilà, j'avais mes petites cuisses de coquelet. Et j'étais ravie, plus que ravie, parce que c'était quand même mon plat préféré. Le fameux poulet frites. Elle le savait, donc elle voulait toujours me faire plaisir.
Là, on est un peu dans la cuisine, dans l'appartement de Jacqueline. C'était où ? C'était dans quelle ville ?
Alors, c'était du côté de la Roseraie, à Angers. Elle avait son appartement, elle a toujours... Enfin, moi, je l'ai toujours connu ici. Donc, son appartement avec son grand balcon. Alors, il n'y avait pas forcément... Il n'y avait pas d'extérieur. Alors, quand j'allais chez elle, elle donnait vraiment tout de son temps pour... Elle s'arrêtait un peu pour s'occuper de moi, à la différence de mon autre grand-mère qui continuait sa vie avec moi à côté. Mais c'est vrai que chez Jacqueline, elle s'arrêtait pour...
Quand tu venais, elle arrêtait ses activités
parce que effectivement, on ne se voyait pas souvent. Et donc, je pense qu'elle voulait profiter de ces moments... C'était vraiment c'était assez rare que j'aille passer du temps chez elle. Mais en tout cas, quand je passais du temps avec elle, c'était vraiment du temps à 100%.
Et c'était quoi, c'est tout ce qu'elle arrêtait ? C'était quoi, du coup, ses activités ? Ça a été quoi, sa vie, son métier, son caractère ?
Alors, elle s'est occupée de ses enfants, puisque... C'est la maman de mon papa, mais elle avait... mon papa a plusieurs frères et sœurs. Donc, elle s'est toujours occupée de ses enfants. Elle a mis de côté sa carrière. Et puis, je n'ai jamais connu mon papy. Donc, elle a tout géré toute seule pendant plusieurs années. En tout cas, mon grand-père paternel est parti l'année de ma naissance. Donc, après, c'est vrai qu'elle a dû s'occuper de tout le reste toute seule. Donc c'est vrai qu'elle était alors elle avait des activités plutôt classiques pour une mamie. Elle allait faire son marché, elle s'occupait de sa maison, pas d'activité particulière. Elle était plutôt tranquille.
Et si tu devais nous la dessiner un peu ou nous raconter une photo d'elle pour qu'on voit à quoi elle ressemblait,
elle était très grande. Elle était très grande, elle avait des grandes jambes. Elle avait des cheveux. Alors elle avait plus de cheveux parce qu'elle avait perdu ses cheveux à la naissance de mon papa et de sa sœur. Donc elle avait une perruque
qui sont des jumeaux.
Oui, qui sont des jumeaux, qui sont des faux jumeaux, mais du coup elle avait perdu tous ses cheveux, donc elle avait une perruque avec des cheveux très très bruns. Et elle est toujours avec son petit gilet et sa grande jupe qui faisait voir ses grandes jambes. Et moi, ça m'impressionnait parce que on a l'habitude d'avoir les mamies qui sont plutôt petites et la mienne, elle était très grande.
Oui, on a des images un peu petites, voûtées, discrètes.
Non, non,
elle existait pleinement grande. Dans l'espace. Oui. Ouais. Après Jacqueline, on peut parler un peu de Marie-Louise, donc du côté maternel. Quel lien tu avais avec Marie-Louise ?
J'avais un lien particulier puisque c'était chez elle que je pense. Enfin, j'ai grandi. Elle m'a depuis toujours accueillie, donc pendant les vacances, avant l'école, après l'école. Elle habitait juste à côté de l'école, donc forcément c'était pratique de pouvoir.
Et donc vous habitiez vraiment côte à côte. C'était où ? C'était dans le Maine-et-Loire ?
Oui, c'était à Angers. Et elle a toujours habité ici. Donc, c'était mon repère. J'y passais tout mon temps. J'y pouvais m'y rendre en vélo. C'est vrai que j'y ai passé beaucoup, beaucoup de temps.
Et donc, toi, à côté de la maison familiale avec les parents, y avait cet espace juste à côté de disponible de tout, où tu pouvais aller dès que tu le souhaitais, cet espace.
Alors, c'était pas tout proche. Hein, c'était à 1 km, 1,5 km. Mais c'est vrai que c'était facilement accessible, que ce soit à pied quand j'étais bien motivée ou en vélo. Mais en tout cas, oui, c'était mon repère.
Alors, qu'est-ce qui se passait là-bas quand tu allais enfant, les petits moments avec Marie-Louise dans son chez-elle ?
Il y avait toujours de l'occupation, que ce soit... Alors, elle avait un tout petit jardin, puisqu'elle habitait quand même... alors, pas dans le centre-ville, mais dans le quartier Sainte-Thérèse. Donc, c'était un petit jardin. Elle avait plein d'animaux. Elle avait toujours... Et puis, moi, j'adore les animaux, donc j'étais passionnée. Les tourterelles, les chiens, les oiseaux divers et variés, les tortues, enfin, il y en avait.
Ah, il y avait des petites cages avec des
oiseaux. Ah oui, toujours, partout. Et donc, c'était l'occupation, en fait. Et puis, elle avait son jardin, alors tout petit, mais il y avait toujours de quoi rempoter, planter, bêcher. C'était un plaisir. Enfin, dès lors que les premiers rayons du soleil pointaient le bout de leur nez, j'étais dehors, en fait. Aussi petit, l'endroit était vraiment tout petit, mais par contre, oui, j'étais dehors, et puis je vaquais à mes occupations. Elle était pas loin derrière, elle popotait généralement, elle était en train de préparer toujours à manger, et moi, j'étais là, en train de m'occuper tranquillement.
On imagine très bien ton petit paradis d'enfance, là, ce petit nid avec le bruit des oiseaux, les odeurs des fleurs. Qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de ce cocon ? Qu'est-ce qu'elle t'a appris ? Qu'est-ce qu'elle t'a transmis ? Qu'est-ce que vous faisiez ensemble ?
Alors, elle m'a transmis déjà son amour pour les fleurs. Clairement, c'était... Elle s'occupait très bien de son jardin, et puis cette façon qu'elle avait de son approche par rapport à la saisonnalité des fleurs. Alors, elle avait une grande connaissance dans tout ça. Elle était passionnée, elle aimait beaucoup s'en occuper. Et ça, j'ai appris ça, d'être la patience et l'attente de chaque saison. Et puis, de profiter des parfums et de chaque moment, en fait. De ce renouveau chaque année, finalement.
Il y avait une espèce de poésie dans sa manière d'appréhender aussi ce rapport aux fleurs, aux saisons, à la nature. Je ressens ça dans ta manière de le raconter, peut-être plus que dans ce que
moi, je le raconte, oui, comme ça, effectivement. Après, je pense que elle, de son côté, c'était plutôt naturel. Elle aimait ça, elle aimait profondément la nature et elle aimait le transmettre. Donc, on allait au marché ensemble, on achetait des fleurs et puis et c'était oui, c'est ces petits rituels qui font que finalement sur le coup, on n'a pas forcément l'impression d'avoir cette transmission, mais c'est une fois qu'ils sont partis qu'on se dit que ils ont été ses premiers guides, en fait, dans tout ce cheminement. En tout cas, même, c'est la naissance de cette vocation.
Oui, il y a quelque chose qui a infusé en toi à ce moment-là et qui s'est révélé peut-être un peu plus tard dans ta vie.
Plus tard.
Comment ça s'est passé ?
Alors, je travaillais dans l'événementiel. J'ai toujours adoré créer, composer, mais c'est vrai que je ne me retrouvais pas forcément dans mon métier de chargée de projet. Alors, j'aimais faire du sur-mesure. Mais j'aimais pas le... Je m'ennuyais très rapidement. Donc, il fallait toujours faire des choses différentes. À chaque fois, je déteste m'ennuyer. Et du coup, je me suis sentie un peu enfermée dans ce travail-là. Et après, les enfants sont arrivés. Donc, assez rapprochés. Mon premier, donc, maintenant, a 10 ans. Et le deuxième, a 8 ans. Et... Un an après la naissance de mon deuxième petit garçon, j'ai eu envie de changer, de me retrouver, ce que j'avais beaucoup donné en termes de maternité. Et là, il fallait que j'existe en tant que, en tant que femme et en tant qu'entrepreneur. Et j'ai décidé là de me lancer et de d'oser, tout simplement. Quand j'étais jeune, j'avais eu cette possibilité de faire un lycée horticole et je ne l'avais pas saisi à l'époque. J'étais restée en filière générale. Moi, je me suis dit pourquoi pas, on va pas recommencer les études on va pas tout recommencer à zéro parce que ça serait trop long et maintenant que les enfants sont là, on n'a plus la même disponibilité pour les études. Mais en tout cas, j'ai fait une reconversion plutôt courte et je me suis lancée à mon compte. J'ai lancé la caravane botanique en 2018 et j'ai commencé les marchés à la fin de l'année 2018.
Pendant toute cette période un petit peu de transition, de quelle manière étaient présents aussi les souvenirs d'enfance avec cette grand-mère? Ou alors peut-être que ce goût-là pour cette thématique n'avait jamais disparu, mais c'est que tu ne l'avais pas encore, tu l'avais pas vraiment exploité jusqu'au bout.
Je pense que sans trop réfléchir, parce que j'y vais rarement en réfléchissant, mais en tout cas,
instinct, il y a des choses instinctives.
C'était instinctif et j'ai foncé. Je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai l'impression que c'est le moment, il faut y aller. Et j'ai pris. Alors pourquoi la caravane? Je ne sais pas. En tout cas, je me suis entourée d'objets qui me faisaient penser à ma grand-mère. Des choses que je voyais qu'il y avait dans sa maison, puisqu'elle est partie, elle nous a quittés donc, en 2009. Mais en tout cas. J'avais toujours gardé des objets qui me faisaient penser à elle, en me disant qu'un jour, j'en aurais l'utilité. Donc, c'était des vieilles bassines en zinc, des armoires, des petites armoires, des tables. Je les revois dans l'établi, en dessous, une montagne de choses, parce qu'il y avait toujours énormément de choses chez ma grand-mère, mais en tout cas, il y avait des petites pépites par-ci, par-là, et je les ai toujours gardées. Et là, je me suis lancée, je me suis dit, allez, maintenant, c'est votre moment, on va pouvoir ressortir tout ça. Et ça faisait une joyeuse brocante là dans cette caravane, ça allait bien. J'avais des vieux vélos, enfin bon, c'était. Et je m'en suis servie pour présenter les fleurs et leur trouver, voilà, et de faire revivre un peu tout ce joyeux bazar et qui m'ont accompagnée pendant toutes ces années parce que c'est ce dont je me servais sur les marchés finalement pour présenter les fleurs, les vieilles tasses à café, etc. Je faisais mes bougies à l'intérieur.
Donc Marie-Louise était là.
Oui, elle était là
à travers ces objets.
Complètement. Et c'était chouette en fait. Je me suis toujours sentie entourée, en tout cas pour ce projet. Ça m'a toujours guidée, même si elle n'était plus là. Ça restait mon guide dans tout ce que j'entreprenais.
Oui, c'est incroyable la force que gardent les gens qui nous sont chers, même disparus, et de quelle manière ils peuvent nous guider aussi à distance, comme ça, à contre-mort. Et. Est-ce que Marie-Louise est restée présente aussi dans ta manière de parler du projet?
Elle est là parce que toute cette histoire-là que j'ai adoré vivre, maintenant je la retransmets avec mes enfants. C'est ce que j'ai cherché aussi à faire, à recréer. C'est ce que je voulais offrir à mes enfants. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a acheté une grande maison, on vit tous ensemble, parce que je veux que mes enfants ils puissent profiter de leur mamie. C'est hyper important pour moi. J'ai adoré évoluer dans cette ambiance et d'avoir une mamie à côté de soi, c'est quand même... C'est juste le paradis, quoi. Pour un enfant, je trouve que c'est chouette. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir vivre en famille, comme ça, en communauté, et enfin, je sais que c'est un cadeau que je fais à mes enfants.
Alors c'est quoi une mamie? Comment tu définirais cet espace grand-maternel?
Là, en tout cas, moi, ce qui est ma grand-mère maternelle, elle était dévouée, elle était entièrement dévouée à ses... Alors en plus, j'ai été longtemps toute seule, son unique petite fille avec ma petite sœur, on a 12 ans d'écart, donc j'ai grandi avec une mamie juste pour moi.
Et c'était exclusive.
Donc en tout cas, la mamie de mes enfants, la maman de mon mari, elle est avec qui on vit, elle est entièrement dévouée à ses petits-enfants. Enfin, elle donnerait tout, elle les aime d'un amour, c'est beau quoi. C'est vraiment, elle est là pour, elle ferait tout pour leur faire plaisir. Alors, oui, forcément, nous, on veut leur mettre des limites, mais c'est aussi notre rôle de parents, mais eux, c'est nos limites.
Oui, c'est ça. Je crois que l'espace grand maternel, il est caractérisé par une espèce de déchargement des contraintes éducatives qui appartiennent aux parents. Et dès lors, l'espace est sublime.
Et là, le terrain de jeu est vaste. Et en tout cas, et c'est là que c'est la transmission, en fait. La mamie, c'est et les grands-parents, de manière générale, c'est la transmission. Eux, ils savent, en fait. Ils savent tout. Ils ont tout à apprendre à nos enfants. Et quand je vois mes enfants accompagner, nous on a un grand potager, on a donc accompagné ma belle-mère sur le potager, aller chercher les pommes de terre. Alors nous souvent on court partout à droite à gauche, mais eux ils ont le temps, ils accompagnent, ils sont des guides, les premiers guides de nos enfants.
C'était quoi les fleurs préférées de Marie-Louise?
Elle aimait beaucoup les œillets. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi aussi j'apprécie. Leur odeur, ça me rappelle. Parce qu'il y avait souvent des œillets dans le jardin. Elle avait des œillets, des roses, des hortensias. Et je pense qu'elle aimait beaucoup les œillets et les glaïeuls qu'on allait chercher au marché.
Et c'était quoi la saison préférée de Marie-Louise?
J'imagine que c'était le printemps. C'est le moment du renouveau. Je pense que c'est là où tout reprend, la nature refait surface. Et...
Oui, c'est toujours la saison de l'émerveillement, ouais. Du réémerveillement.
Oui, et de se dire que voilà, toutes les possibilités s'offrent à nous. Moi, maintenant, je le vois au niveau de la ferme. C'est le moment où on se dit, bon, allez, on a toutes ces graines devant nous. On va pouvoir... on rebat le jeu à chaque fois, chaque année. On se dit, on va pouvoir refaire des nouveaux tests. On va pouvoir retrouver des variétés qu'on adore et puis en faire pousser d'autres. On va faire des essais, des tests, et puis des fois, ça fonctionne. Et des fois, c'est des échecs, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, au printemps suivant, on recommence tout.
Raconte-nous un petit peu ce qui se passe et ce qui pousse dans cette ferme-là.
Alors moi, je cultive... généralement que des annuelles, des plantes qui sont destinées à avoir une vie sur une année, qui vont mourir en fait à la fin de l'année. Mais en tout cas, je pars de la graine et ensuite je remets tout en pleine terre. Donc je n'ai pas de serre. Je travaille vraiment uniquement en plein champ, sans pesticides et forcément face aux aléas climatiques. Donc l'année dernière était une très belle année. Et on verra ce que nous offre la prochaine saison. En tout cas,
Faut accepter cet aléatoire.
Exactement, oui. Donc généralement, on plante un peu plus et puis on sait que derrière, forcément, il y aura sans doute des petits insectes qui vont venir grignoter quelques tiges ou même des animaux. On est à la campagne, donc il y a forcément... des petits animaux qui vont venir se coucher dans les parcelles et qui vont ravager quelques fleurs, mais c'est pas sur la quantité qu'on plante, clairement. On sait qu'il y a toujours une perte, donc c'est le jeu, c'est comme ça.
Est-ce qu'il y a des animaux comme dans le petit jardin de Marie-Louise?
Oui, alors nous on est plutôt, alors il y a des petits animaux, mais il y a surtout des gros animaux. On a pas mal de chevreuils et de sangliers qui trouvent quelques cachettes pour se...
Oui, ça c'est l'aspect les animaux sauvages, oui. Qui vivent là. Et est-ce que aussi vous avez des animaux domestiques ou des petits,
évidemment,
oiseaux?
Évidemment.
Allez, je veux la liste exhaustive.
Alors on a beaucoup d'animaux. Alors moi, j'adore, mais ce n'est pas du goût de mon mari qui me regarde avec complètement dépité. Mais Chloé, mais arrête.
Jusqu'où ça s'arrête?
Donc, j'ai des poules, j'ai des canards, j'ai des paons. J'adore les paons. J'ai des chats, des poneys. Et j'ai toujours mon poney, en fait, au décès de ma mamie. Elle m'avait laissé... alors, elle n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle m'avait laissé... Un petit peu d'argent de côté. Et avec cet argent, je me suis acheté un poney, et que j'ai toujours. Et donc, ma petite Luna, elle m'accompagne toujours, elle est toujours là, donc je sais qu'elle veille de l'autre côté, et je savais qu'un jour, elle serait là, et depuis 3 ans, du coup, on l'a vraiment avec nous. Donc, elle est, avant, elle était dans un autre pré. Et aujourd'hui, bah, on peut la voir tous les jours. Donc, ça, c'est chouette.
Ah, donc, ce poney, c'est le lien quand même à Marie-Louise,
oui,
parce que c'est grâce à,
oui,
c'est grâce à ce qu'elle t'a laissé, voilà, que tu as pu te faire ce cadeau. Elle t'a fait ce cadeau.
Oui, complètement. C'était ma passion. Enfin, c'était... Et là, j'ai pu voilà, trouver cette petite, ce compagnon de vie, en tout cas, qui m'a aidée à gérer... Et à avancer pendant cette période de deuil, j'allais voir mon poney et j'étais hyper... c'était un grand réconfort en tout cas. Et elle est toujours là aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance.
Et tu entretiens une conversation peut-être avec cet animal qui te relie à ta grand-mère ?
J'ai pas forcément besoin de converser avec Luna.
C'est une présence.
Ouais, c'est une présence en fait, elle est là. Enfin, je sais que... Ouais, on n'a pas... Enfin, sans parole, avec les animaux, souvent, c'est ça. Autant, je parle beaucoup avec mon chat, mais avec mon poney, on n'a pas besoin de parler.
Je comprends, moi, je parle aux vaches quand je fais du vélo. Donc, est-ce que, à la ferme, j'imagine, j'aime bien dans cette émission aussi parler de photos. Est-ce qu'il y a des photos de Marie-Louise ? Est-ce qu'il y a une photo en particulier que tu aimes, que tu pourrais nous décrire, dont tu pourrais nous parler pour qu'on voit aussi à quoi elle ressemblait, Marie-Louise ?
Ah, j'ai une photo de ma grand-mère, elle est dans une brouette. Parce qu'elle n'était pas très grande, ma grand-mère, alors du coup, j'aimais beaucoup. Alors, on a des photos, voilà. Elle est chez sa sœur, je me souviens. Elle avait toujours sa petite jupe plissée avec son petit gilet et sa blouse. La blouse, j'ai toujours gardé la blouse parce que ça me fait penser à elle. Alors, quand je cuisine ou quand j'aime bien avoir sa blouse. Et du coup, oui, j'ai cette photo... Elle est hilar dans sa brouette parce qu'effectivement, je pense que c'est pas hyper confortable, mais pourtant elle le fait. Hein, elle le fait parce que c'est une super mamie et que du coup, et on profite de ce moment. Donc, avant d'aller chercher les fleurs, je lui fais faire un tour de brouette.
Ah, c'est avec toi, c'est toi qui,
c'est toi qui. C'est moi qui pousse la brouette avec la mamie dedans.
Oui, donc une photo d'un souvenir joyeux, d'un souvenir de rire ensemble.
Oui. Parce qu'elle rigolait souvent.
Est-ce qu'il y a d'autres petits moments, petits objets là, en parlant, qui te reviennent, que tu voudrais nous raconter ?
Moi, oui, au niveau de son... Je revois toujours... Mais c'est des choses qu'on a gardées. Par exemple, la table où on était, où on se rassemblait, en fait, ça, je l'ai gardée, par exemple. Elle est encore... dans la maison de ma belle-maman, c'est elle qui l'a récupérée et c'est toujours la table de jeu là où on se rassemble, où on aime se retrouver. En fait, il y a des objets comme ça qui sont un peu symboliques et je sais qu'ils ont toujours leur place chez nous.
Alors Chloé, merci beaucoup. Il est déjà l'heure d'achever cette conversation grand maternelle. Un grand merci d'être venue rendre visite à Albertine.
Merci beaucoup en tout cas pour cette belle invitation.
Merci à toutes et à tous pour votre écoute. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode d'Albertine sur Radio G. Et on se quitte comme d'habitude avec un texte choisi et lu par notre invitée Chloé Viau.
Alors c'est un texte de Christian Bobin et qui va parler de la transmission parce que pour moi c'est vraiment la symbolique des grands-parents. Pour moi c'est eux qui transmettent, en tout cas, aux enfants. Et donc, je vais vous lire. C'est un texte relativement court, mais qui a grand sens. Une grand-mère ne disparaît jamais vraiment. Elle devient un regard posé sur nos gestes, une douceur qui nous précède. Ce qu'elle a aimé continue de vivre en nous. Les fleurs qu'elle regardait pousser nous apprennent encore la lenteur, la fidélité au vivant. Et cette façon silencieuse d'aimer le monde. La descendance n'est pas une répétition, c'est une réponse. Nous ne recommençons pas l'histoire, nous la prolongeons. Avec ce que d'autres ont patiemment semé.